Le festival Marmaille s'est terminé à Rennes la semaine dernière. Pendant 2 semaines, de nombreux spectacles à destination du jeune public se sont succédés, et parmi eux, la pièce chorégraphique À la lueur du doute. Rebecca est allée à la rencontre de sa créatrice, Carole Bonneau.
Bonjour Carole Bonneau, vous êtes danseuse et chorégraphe, et vous avez imaginé, donc avec Hélène Mayou et Falila Taïrou, le spectacle À la lueur du doute. Ce spectacle de danse, il met en scène 3 sorcières. Au beau milieu d'une forêt, on voit déjà un petit peu des éléments du décor en face de nous. Comment l'idée de ce spectacle déjà est née et comment vous vous êtes rencontrées toutes les trois?
Avec Hélène Mayou, on se connaît depuis très longtemps. On avait fait nos études ensemble au CNDC à Angers il y a plus de 20 ans de ça. Et puis après, on n'a pas tout le temps travaillé ensemble, mais on s'est retrouvés il y a 10 années. Et ça fait pas mal de pièces de la compagnie où on travaille ensemble, on collabore depuis pas mal d'années déjà là. Et Falila Taïrou, on se connaissait déjà. Elle vit près d'Angers, voilà, elle est danseuse et elle est chorégraphe aussi. Elle crée des pièces. Mais on n'avait encore jamais travaillé ensemble et là c'était l'occasion pour cette pièce-là. Et l'envie, le désir de cette pièce est venu du souhait, dans l'adresse aux enfants, de se questionner un peu sur notre relation à la nature, leur relation à eux aussi à la nature, maintenant à une époque où les écrans, le numérique est tellement présent. Et même si dans plein de jeux d'enfance, une relation un peu magique aux éléments peut déjà être présente, on avait envie de partir de cette idée-là, de ce thème-là. Et de ramener comme ça un peu de magie, un peu d'imaginaire autour des éléments et notre lien. Et ramener du sacré aussi dans ce lien-là. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'on est de plus en plus déconnectés de la nature, comme vous le disiez, avec les écrans et tout. Donc c'était important aussi de montrer ce lien qui n'est pas forcément évident quand on vit en ville, par exemple. C'était vraiment le but, autant pour les enfants que pour les parents, j'imagine.
Tout à fait, ouais, je pense, et aussi pour nous, en fait, de venir retrouver une danse qui vienne s'appuyer sur cette relation-là. Après, selon les créations, c'est vrai qu'on vient convoquer des imaginaires différents, et puis là, on a eu cette envie-là. L'envie de ramener du sacré aussi, de travailler sur le rythme, quelque chose un peu d'ancestral ou qui nous dépasserait comme ça et dans lequel on s'inscrit. Et on avait envie de partager ça, c'est vrai, dans cette période-là avec les enfants. Ouais.
Et en quoi la danse, qui est quand même un mouvement à la base, ça illustre bien justement cette relation à la nature, au vivant. Enfin, c'est un art qui est quand même assez parlant, je pense. Pour aborder ces thèmes-là, qu'est-ce que vous en pensez ?
Tout à fait. De toute façon, nous sommes partis de la nature et du vivant. On est plein de cellules, de vie, d'eau, de plein d'éléments à l'intérieur. Donc pour nous, c'était aussi un plaisir et une joie de venir convoquer ces éléments-là. On s'est inventé, on s'est appuyé sur chacune sur un élément, terre, feu, bois, air. Pour venir alimenter, se créer des rituels et puis alimenter comme ça des danses. Falila est franco-béninoise, elle a aussi tout un apport de sa culture du Bénin, où là-bas il y a tout un rapport avec l'invisible, avec les esprits, qui est différent de ce qu'on vit chez nous. À la fois dans l'enfance, je pense qu'il y a plein de moments où on s'invente comme ça, comment des pensées magiques, des pouvoirs magiques, et où on a intuitivement tous ces éléments-là. Et donc là, on s'est amusé à venir convoquer. Cette sauce-là. Ouais.
Ouais. Et donc, vous êtes toutes les trois seules sur scène, mais il y a toute une équipe derrière, notamment les lumières, la musique. Comment tout ça s'est coordonné dans le choix peut-être des éléments qui viennent soutenir un peu la danse pour former un spectacle harmonieux au final?
Donc, il y a Jean-Michel Noël qui a créé la musique, qui a composé la musique et puis qui est avec nous pour la tournée, le côté technique et diffusion. Et puis Séverine Lemonnier qui a créé les lumières. Et c'est vrai que tout est très imbriqué dans le spectacle. La musique, au départ de cette pièce, moi j'avais écrit des textes poétiques comme ça sur qui viennent comme si la terre venait s'adresser à nous. Donc cet appui-là du texte est devenu un support même rythmique, un peu dans la poésie, le côté oral, transmission orale et rythmique, et qui est venu appuyer et la danse et puis aussi la création musicale. Et donc tout au long de la création, Jean-Michel est venu avec nous en studio et puis on a travaillé ensemble très régulièrement, quoi. Et puis là, on avait envie de ramener un peu des éléments de magie, enfin utiliser la magie de la boîte noire, d'utiliser la lumière et l'élément tulle au plateau qui permet des apparitions et des disparitions. Donc du coup, la lumière est très importante. C'est vrai qu'au bout du compte, dans le spectacle, il y a une partition écrite qui lie la danse, la musique et la lumière très fortement. On est tous très interdépendants. Ça nous fait une conduite et une recette très serrée ensemble. Donc, ça a été vraiment... Y a, pour créer plein d'images, la lumière était au cœur de ces images-là. Donc, on a dû collaborer vraiment fortement.
Et j'imagine que ça a dû être un peu difficile peut-être de mettre en place ce spectacle, notamment avec le contexte Covid et tout. Combien de temps ça vous a pris et comment ça s'est passé?
Il était déjà prévu pour nous, toutes les résidences de création, les périodes de répétition de création étaient prévues sur la saison, l'année scolaire dernière. Et la chance qu'on a eue, c'est que au deuxième confinement, les représentations n'étaient plus autorisées, mais les compagnies pouvaient continuer à répéter en milieu professionnel, en fait, dans les théâtres, mais qui ne recevaient pas du public. Donc, ce qui fait que tout l'agenda qu'on avait, qui était déjà prévu d'accueil de résidence pour les répétitions, cet agenda-là n'a pas bougé. Et bien heureusement, enfin, on en était ravis. Et c'est ce qui nous a vachement... ça nous a vraiment tenus aussi l'année dernière, voilà, ensemble. Et donc, par bonheur, on a la chance que la première arrive là et les théâtres sont réouverts. Donc, ce projet-là, le planning qui était prévu n'a pas bougé. Voilà. Par contre, l'année dernière, toutes les dates d'autres spectacles qu'on devait jouer ont été déplacées et reportées. Ouais. Mais celui-là n'était pas impacté.
J'aimerais revenir maintenant sur le titre du spectacle, La lueur du doute. Comment vous est venue l'idée de ce titre et qu'est-ce que ça sous-entend derrière? Quelle est l'intention?
Il était dans ces textes poétiques justement qui étaient un peu à l'origine du projet, enfin dans l'écriture du projet, mais avant qu'on se mette à travailler les corps en studio. Et la sensation justement de je sais pas, chemin faisant, moi maintenant j'ai l'impression d'être plus âgée, de pouvoir remettre en question aussi toute ma vision du monde, enfin ou me rendre compte que je vois le monde avec un filtre qui est dû à mon éducation, là où je suis née et tout ça. Et puis d'avoir envie aussi d'essayer de pouvoir me décaler un peu ou d'essayer de pouvoir me déplacer un petit peu mon regard et puis de me laisser douter et être surprise ou étonnée ou rester curieuse. Et donc c'est vrai que ça me donnait le sentiment de se décaler de là où j'ai l'impression, où j'ai la lumière habituellement, pour aller dans le côté un peu plus pénombre et caché et obscur, et puis d'aller à tâtons découvrir.
Et donc du coup, c'est des sorcières qui sont représentées dans ce spectacle. C'est vrai que c'est une figure qui est assez représentée, enfin de plus en plus en tout cas, et qui évoque pas mal de choses. Pourquoi avoir choisi de mettre en lumière cette figure et sous quelle forme? Puisqu'il y a tellement de sorcières différentes, de la sorcière antique à la sorcière du Moyen-Âge et des temps modernes qu'on brûlait sur les bûchers. Pourquoi cette figure aussi symbolique?
C'est vrai que ce projet est né aussi de la découverte de plein de bouquins qui ont été réédités ou qui sont sortis là ces dernières années. Donc, notamment Starhawk, Révé l'obscur. Starhawk faisait partie de tout l'écoféminisme des années 70 et elles avaient plein de pratiques liées à la nature, des pratiques de femmes qui parfois dans ce qu'elles décrivent peuvent être proches de ce qu'on vit en atelier en fait, en danse ou d'expériences qu'on peut vivre aussi je pense en théâtre ou dans le lien à l'autre, dans la... il y avait toute cette lecture, ces lectures-là qui nous ont alimenté aussi. Et puis en effet, comme nous tous, je pense que là il y a quelque chose du féminin ou du côté justement plus intérieur ou qui vient en lumière dans cette période-là qu'on vit. Visiblement elle a besoin d'être exprimée, partagée et elle va inspirer, elle inspire et puis elle peut nous permettre je pense de nouvelles choses puisqu'on sort de toute une période beaucoup plus basée sur patriarcat, d'autres... Donc en effet je pense que là on est reliés tous et tous ensemble et c'est présent, c'est dans l'air. Après les sorcières qu'on s'est inventées sont, je sais pas, c'est pas les sorcières d'Halloween ou c'est pas là, on est, c'est vraiment le l'imaginaire de trois femmes qui vivent en forêt et qui peuvent comme ça convoquer des esprits de la nature ou percevoir des choses qu'elles sont pas trop sûres, ou enfin de réveiller d'autres perceptions. Voilà.
En tout cas, c'est une figure très intéressante et qui vient compléter tout un travail d'art qui existe depuis de nombreuses années autour de la sorcière. Le fait que vous soyez trois femmes sur scène, c'était volontaire ? C'était peut-être, il y avait une volonté de représenter la sororité ou...
Bah, tout à fait, ouais. Il est question de ça, ouais, comme trois femmes qui vivent ensemble et qui partagent un quotidien. Le chiffre 3 est arrivé un peu naturellement, ouais. Et puis aussi les rencontres. Enfin, je pense au tout début du projet, au départ, je ne pensais pas être dedans. Je pensais qu'une autre personne danserait. Bon, et puis ça s'est trouvé comme ça. Mais en effet, il y a quelque chose un peu de l'ordre d'une tribu, d'une famille, d'une communauté, de sororité dans cette vie ensemble, dans cette forêt imaginaire.
Peut-être on peut parler des autres spectacles, ouais, notamment les Sœurs Santiago.
Ben, Sœurs Santiago, on l'a créé en 2017, sur la saison 2017-2018. Donc, on est deux danseuses, Hélène et moi. Il est beaucoup question de sororité. En fait, on était beaucoup sur déplier la relation. La crainte aussi de l'autre, comment apprivoiser l'autre, comment autour de cette pièce-là, c'était beaucoup sur la question du vivre ensemble. Je pense qu'on sortait aussi de toute la période des attentats où on venait re-questionner la fraternité, la sororité. Voilà. Et donc on est deux danseuses et Jean-Michel Noël au plateau. La musique se joue en live. Et là, pour le coup, on incarne presque beaucoup plus des archétypes très masculins. On est plus proche. On avait un peu en tête le nom du film va plus me revenir, mais on peut tout s'inventer dans cette pièce. Mais le début, on est menottés l'une à l'autre, comme si on était fugitives. Et donc on subit plus le lien l'une à l'autre, et puis progressivement, ce lien se transforme jusqu'à s'ouvrir au public. Donc on était beaucoup sur le lien et le rapport à l'autre, ouais, sur la création de cette pièce là. Voilà. Et puis cette pièce est en quadrifrontale, donc elle est très différente aussi. Donc il n'y a pas de boîte noire, on est tous ensemble dans un espace qui est comme entre ring, désert, aire de jeu ou place publique. Donc ça ramène les gens aussi dans le lien entre eux, dans ce face à face.
Et donc il y a aussi Les Princesses aussi en fin de loup qui est également prévu dans les prochaines dates. Est-ce qu'on peut savoir en quelques mots de quoi est-il question dans cette pièce ?
Bah, Les Princesses aussi ont des fins de loup. On est parti vraiment des archétypes féminins dans les contes. On est trois femmes aussi au plateau, dont Hélène, moi et puis Mathilde Pifto, qui est chanteuse lyrique. Dans un univers, un décor tout fait de plastique bulle en fait. Donc un décor un peu blanc, mais un peu qui fait plastique, mais qui a la lumière pour avoir quelque chose de très scintillant, un peu neigeux. On est venu re-questionner ces personnages de contes, donc les princesses, le rapport mère-fille, l'espèce de reine toute puissante que peut incarner la mère aux yeux des enfants parfois. Les différentes facettes de cette puissance et de cette reine et ce lien. Et puis, il y a aussi un rapport de sororité entre nos deux personnages avec Hélène dans cette pièce-là, ouais, mais qui serait plus vraiment de l'ordre de l'enfance. Là, dans cette pièce, on incarne plus les princesses et les enfants de cette mère. Donc, ouais, cette pièce est très féminine aussi, ouais. Dans un autre univers beaucoup plus blanc ou lumineux, je sais pas. Ouais, ouais.
Ben, merci beaucoup.
On remercie Carole Bonneau et Rebecca. Et si vous l'avez loupé au Marmaille, La Lueur du Doute sera jouée le 22 et le 23 novembre à la MJC de Tréguingue dans le Finistère.